Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. 20h pétante. Et oui, c'est l'heure de Time Sport. Si je pourrais avoir un retour assez motivant, Yanis, hein, à la réalisation. Voilà, en ce début de semaine, hein, je m'entends qu'à moi et aussi les auditrices et les auditeurs ne veulent pas que m'entendre. Au menu de cette émission, en ce 28 février 2022, on aura quoi ? On parlera de cette fameuse Ligue 1 Uber Eats. Eh oui, l'Olympique Lyonnais qui crie au scandale face aux Lillois, sans oublier l'Olympique de Marseille, au ralenti contre les Troyens. On parlera de Kylian Mbappé qui égale un certain Zlatan Ibrahimovic face à l'AS Saint-Etienne. Et sans oublier aussi la Carabao Cup. Et oui, la finale de folie du côté de Wembley, c'est nos voisins british. N'oubliez pas le numéro du standard, le 01 53 48 3000. On accueillera pour la première fois sur cette antenne Lord El Wafi, un magnifique ouvrage justement mis en place, réalisé par Paul Karsenak. Et oui, pour la première fois dans cette émission, co-auteur de cette fameuse bande dessinée. Je rappelle le titre, Lord El Wafi aux éditions Lafon. Allez, c'est parti, on y va. Gogo Time Sport avec le JT de Jason.
Time Sport. Marqué par les résultats de dimanche soir à l'étranger en football et Naples qui retrouve la tête de Serie A grâce au faux pas de l'Inter et du Milan ce week-end, mais surtout grâce à sa belle victoire lors du choc contre la Lazio 2 buts à 1. Une autre belle victoire hier soir, c'est celle du Barça face à l'Athletic Bilbao, 4 buts à 1, avec un Ousmane Dembélé en feu lors de son entrée en jeu, auteur d'un but et de deux passes décisives en seulement quelques minutes. En Angleterre, Marcelo Bielsa a été officiellement remercié dimanche par Leeds United. Le coach argentin arrivé en 2018 paye les mauvais résultats du club actuellement 16e de Premier League. Il sera remplacé dans les prochaines heures par l'américain Jesse Marsh. Un mot de rugby, grâce à sa victoire contre l'Écosse samedi 17 à 36, l'équipe de France se classe désormais 3e au classement mondial derrière l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Et enfin, on conclut ces infos par du tennis et la victoire de Rafael Nadal à Acapulco au Mexique. L'Espagnol s'est imposé samedi face à l'Australien Cameron Norrie en 2-7 et empoche déjà son 3e titre de l'année 2022. Voilà, c'est tout pour ces infos du lundi. On vous souhaite un bon début de semaine et une belle émission avec Bilal et toute l'équipe Time Sport.
Et merci Jason, voilà, merci. On est ce soir en compagnie de toute l'équipe de Time Sport avec Juan Trossé. Comment ça va, Juan Trossé?
Hola, buenas tardes a todos. Muy bien, le Real a gagné, le Barça aussi.
Ah ben ça c'est bien ça en tout cas. Mourad est de la partie aussi, comment ça va?
Ben écoute, ça va très bien, Arsenal a gagné aussi de mon côté.
Donc ouais, ben c'est bien. Bon, alors lui, allez, Barcelone, Arsenal, Valence. Allez, peut-être les Bordelais avec Louis-Marie. Non, Louis-Marie, je suis... Non,
mais
vraiment,
si
honnêtement
commence, si on commence
non,
à...
Non, Louis-Marie,
attends,
sérieux
par rapport à Bordeaux, non,
Louis-Marie,
on est vraiment dans la difficulté là, ouais. Je serai jamais de bonne humeur si j'attends que Bordeaux gagne un match.
On espère en tout cas Louis-Marie, pourquoi pas.
Par contre, pour soutenir Louis-Marie, il me semble que Bordeaux, je crois que c'est la 3e ou 4e meilleure attaque de Ligue 1. Bon, ils ont la pire défense d'Europe, mais sur le plan des buts marqués, ils sont pas mal quand même.
Écoute, on a pris que 2 buts en 2 matchs. Sur les 2 derniers matchs, c'est une victoire déjà. Non, mais ça va se sauver, je n'ai pas de doute. Ça va
on
se
l'espère.
Sauver.
Allez, place à la Ligue 1 Uber Eats.
Time Sport. Le sujet des sociaux.
Justement, le match d'hier, 1-0 pour les Lillois. Et oui, là aussi, ça fait très très mal, selon certains. On crie au scandale pour les Lyonnais, mais pourquoi donc? Mourad, Juan Trossé.
Pour moi, c'est un double braquage à la Lillois.
Ouais.
Un premier braquage.
Son filet à l'anglaise.
Exactement. Un premier braquage, puisqu'ils marquent sur, je crois, leur seule véritable occasion, les Lillois. Et le deuxième braquage, ben, c'est le but invalidé de Paqueta. Donc là, ça soulève le problème de la VAR.
L'arbitrage, encore une fois.
Et tu as vu les propos de Garibian aujourd'hui?
J'ai les propos de
Pascal Garibian, le patron des arbitres.
Il a reconnu l'erreur. S'il a reconnu l'erreur, mais ça serait bien, justement, s'il y a une VAR, c'est pour mettre en place. Justement, ce type de correction. Donc là, c'est encore une fois, c'est la performance de Turpin. Il l'a fait déjà au Paris Saint-Germain. Il a récidivé sur ce match-là. Donc voilà. Donc c'est un double braquage. Après, c'est la bête noire de l'Olympique Lyonnais, hein, le LOSC. Donc voilà, on a vu des belles choses aussi, malgré tout, au niveau du contenu. Moi, j'ai bien aimé la performance de Lucas Paqueta, qui pour moi est l'homme du match, malgré tout. Après, il y avait des cellules dormantes lilloises au sein de cet effectif lyonnais. Je pense à Mendes, qui pour moi était un infiltré lillois dans cet effectif. Et il y a eu les échauffements de gardien, j'appelle ça, de Romain Fèvre, où c'était plat du plié qui faisait à Jardim. On ne sait pas si c'était pour l'échauffer ou s'ils voulaient vraiment marquer. Donc voilà, ils n'étaient pas à la hauteur devant. Je pense qu'ils auraient pu mener au score assez rapidement. Mais voilà, c'est cruel. Mais, Mais c'est un vrai double braquage à la Lilloise de la part de Gourvenec.
Ça résumerait pas un peu la saison de Lyon, où t'as l'impression qu'ils sont au-dessus de plein de matchs et ils font pas les résultats. Et alors là, pour le coup, je suis d'accord avec toi, ils ont vraiment pas de chance sur ce match parce qu'ils doivent le gagner à peu près 100 fois. Le but de Paqueta, il doit jamais être refusé. Comme je le disais, Pascal Garibian, qui est quand même le patron des arbitres, a reconnu qu'il y avait eu erreur. Alors là, faut quand même, au-delà des problèmes de VAR, on peut être contre ou pour, le sujet n'est pas là. Il y a quand même des process à mettre en place qui doivent être respectés. À partir du moment
l'angle
où
de la caméra déjà,
oui,
je pense.
L'angle de la caméra.
Un process technique. L'angle de la caméra, déjà, on a été induit en erreur sur l'angle de la caméra. On voit bien qu'il laboure le sol avant de toucher le ballon.
Non, mais surtout ce que dit Garibian, il dit, on n'a pas envoyé toutes les images à l'arbitre. Pourquoi Turpin ne dispose pas de toutes les images pour prendre sa décision? C'est quand même aberrant. Et qu'on vient de nous dire ensuite, ah bah oui, mais
le photographe du mariage de mon cousin avait sorti la même excuse.
Non mais tu vois, il y a un moment c'est ridicule. Et finalement, ça discrédite un peu le championnat, ça discrédite beaucoup de choses. Et quand on en vient là, bah c'est dommage, l'affiche du dimanche soir, Lyon qui perd encore des points, qui se retrouve quand même à 10 points, je crois, de Marseille, ça commence à faire beaucoup. Leur saison, elle commence à être compliquée aux Lyonnais. Et il y a un moment, Peter Bosch, va falloir se poser des questions.
Ils auraient pu être sixième du championnat. Ils sont dixième aujourd'hui.
Et sixième à trois points.
Mais ils pourraient être sixième et en train d'essayer d'accrocher une place européenne. Et ils sont un tout petit peu loin maintenant. Mais je peux comprendre, effectivement, on est tous d'accord là-dessus, la colère des Lyonnais et encore d'accord avec toi quand tu dis qu'il est sur 100 fois il gagne 99 fois ce match. Deux tirs cadrés de Lille, avec deux tirs cadrés ils ramènent le match chez eux, et puis il y a cette histoire de VAR. On peut s'en étonner parce qu'effectivement l'excuse qu'on croit il n'a pas eu toutes les images, ce n'est pas une bonne excuse. Il est allé voir la VAR, moi j'ai vu les images aussi, et mon premier réflexe c'est qu'il n'y avait pas annuler ce but de.
Il y avait même faute pour moi de la part de Jardim.
Non, mais la question, pourquoi ils appellent la VAR?
On n'entend pas l'arbitre. Tu parles de l'arbitre principal, mais.
Oui.
J'aurais aimé entendre l'arbitre expliquer pourquoi il a pris cette décision.
Ah, mais ça, ils n'ont pas le droit. Ça, c'est les que.
Non, mais encore une fois, il faut donner la parole à ceux.
Bah, là,
ça a été un débat, il a raison, Jean-François. Mais ça a été un débat qui a été soulevé pour aller au bout, justement, de cette.
Mais pourquoi les arbitres ne parlent pas? C'est que l'UEFA et la FIFA ne veulent pas que les arbitres s'expriment après les matchs. À chaud, ils n'ont pas le droit de commenter leur performance. Ça, c'est des directives de l'UEFA.
Ce que Juan José soulève, c'est justement comme au rugby, qui est live. On entend les échanges qui indiquent justement la prise de décision.
Il faut le savoir qu'Amazon est en train de pousser pour cela.
Ouais,
ils sont en train de faire un gros lobbying pour y arriver. Justement, parce que Amazon, ils sont tout nouveaux dans le business. Ils se disent, ils ne comprennent pas que ça fluidifierait tellement tout. Ça permettrait de faire de la pédagogie. Ça permettrait aussi d'assainir les rapports entre les joueurs et les arbitres. Parce que les joueurs et les arbitres, ça se chambre cordialement, ça se parle pas toujours correctement, et je parle pas que dans un sens. Ça n'est pas que les joueurs qui parlent mal aux arbitres, ce sont aussi les arbitres qui parfois parlent mal aux joueurs. Donc, quand ils sont entendus, ça donne. Je me souviens très bien, mais tout le monde ne s'en souvient pas parce que ça remonte. La Coupe de la Ligue avait fait un essai au tout début des années 2000. Et c'était génial parce qu'on entendait l'arbitre dire alors, monsieur machin. Prendre beaucoup de circonvolutions.
Ils ont fait cette expérience sur la mauvaise compétition. Exactement. La Coupe de la Ligue n'existe plus aujourd'hui.
C'était génial. Moi qui suis supporter de rugby et qui regarde le rugby, ça permet vraiment d'expliquer. Et t'es devant ta télé, tu te dis, t'es peut-être pas d'accord avec la décision arbitrale, mais au moins l'arbitre.
Oui. Ça a humanisé aussi un peu l'arbitre, d'avantages.
Mais tu vois, vous comprenez le fait que les seules personnes qui ne voient pas les images de la VAR sont les joueurs. Sont les seuls à ne pas avoir les images. L'arbitre les a. Nous, les téléspectateurs, nous les
même
avons.
Même pas sur le grand écran,
Non, c'est interdit. Mais les joueurs les ont pas. Et donc, ça continue. Forcément, ils sont énervés parce qu'ils sont convaincus qu'il y a erreur. Et je peux comprendre qu'effectivement, petit à petit, tu cumules tout ça.
Il y a un vrai process à remettre sur la table, sur au niveau de la VAR. Parce que moi, je ne suis pas pour revenir en arrière. Très clairement, ceux qui te disent la VAR, c'était mieux avant. Le nombre de scandales qu'on a évité grâce à la VAR avec des buts qui n'auraient pas existé, qui auraient pu changer les compétitions.
Moi, je suis un pro VAR, mais quand c'est bien fait.
Exactement. Moi, je suis pour la VAR parce qu'on oublie tout ce que ça a amélioré. En revanche, sur l'application, ça serait tellement facile de faire mieux. Effectivement.
Et la VAR, c'est aussi un cas d'incertitude, on est d'accord, Marie. Donc là, pour moi, il n'y avait même pas d'incertitude. C'était clair que.
Mais pourquoi
Je veux dire, il y a des arbitres assistants, il y a des arbitres.
Mais pourquoi les mecs appellent
Pas besoin de solliciter l'avant. On voit clairement que c'est Jardim qui fait faute.
Et surtout qu'on dit
Paqueta et que Jardim laboure le terrain avant de toucher le ballon.
Non, mais on dit Turpin, regarde. On dit Turpin a fait la faute. Mais
c'était
Turpin,
la jachère de Lille.
Il accorde le but. Et alors, derrière, qu'est-ce qui se passe? Sa VAR l'appelle. À quel moment l'arbitre de la VAR, il l'appelle pour ça? Il doit appeler pour une erreur manifeste. Mais vraiment manifeste. Elle est manifeste, l'erreur? À aucun moment. S'il y a un doute très léger, ils doivent pas appeler. Ils doivent appeler quand vraiment il y a gros doute. Excuse-moi, il y a peut-être une main. Attention, là, il y a peut-être faute. Là,
mais,
appeler pour
mais
ça.
Il y a la pression. Il y a la pression des joueurs.
Est-ce qu'on peut parler du jeu? Est-ce qu'on peut parler des joueurs, du coach? Parce que.
Qui oblige à.
Parce que j'ai l'impression que c'est un débat interminable. Que
ouais, non, mais
on remet en cause la VAR. On remet en cause les process. Moi, j'aimerais parler de Peter Bosch.
Oui.
Peter Bosch, on a recruté comme étant le fer de lance offensif européen. Quand je regarde le nombre de buts marqués par l'Olympique Lyonnais, le système de jeu, c'est censé être un jeu flamboyant offensif. Rudy Garcia, je crois qu'il a mis deux fois plus de buts ou trois fois plus de buts à la même période que Peter Bosch. Alors que Rudy Garcia, il est réputé pour être un entraîneur très tactique, défensif, etc. Donc, où est sa patte à Peter Bosch? Donc moi, c'est un peu comme Sampaoli. Je vois un peu les limites de cet entraîneur. Je pense que il a de très bons joueurs dans son effectif. Je pense qu'il peut mieux faire, mais j'ai l'impression qu'il voit pas le bout.
Alors il y a quand même un truc sur Peter Bosch.
Ouais, c'est quoi?
Je vais pas prendre sa défense.
Ouais.
Mais il y a un moment.
Tu peux. Hein.
Non, mais quand on regarde un petit peu qui est Peter Bosch et son style de jeu.
Ouais.
Son style de jeu offensivement s'appuie sur des ailiers.
Mais
et à Lyon, il n'y a pas d'ailier.
Ben,
donc à un moment donné, il y a un recrutement qui n'est pas du tout en corrélation avec l'entraîneur que tu prends. Il y a un moment, à quel moment tu vas prendre Peter Bosch, dont le jeu est basé sur étirer les lignes, jouer des doubles mouvements dans les ailes, avec des ailiers
après,
très techniques. Non, mais je te dis pas que ça.
Quand tu fais jouer Thiago Mendes à la place de Boateng, que toi-même t'as été recruté au Bayern de Munich, déjà là, il y a un problème.
Non, mais je suis d'accord, je ne m'excuse pas tout. Mais je dis, est-ce que l'effectif est construit pour lui? C'est une vraie question avec que des joueurs. Ils ont quand même pléthore de joueurs qui aiment se recentrer. Et il n'y a personne qui vraiment
il
anime.
Il est à l'origine du recrutement quand même. Hein.
Apparemment, pas tant que ça.
Justement, on pense que le recrutement lui a été imposé, mais avant de signer, il a quand même.
Il a accepté certaines recrues.
Exactement, il était à l'origine de certaines recrues.
Il avait demandé des ailiers qu'il n'a pas eu, faut lui reconnaître. Après,
on attend l'éclosion d'Ariane Cherki qui est blessé.
Après, il sous-utilise Cherki depuis le début de l'année alors qu'il est un ailier.
Après, là, il est blessé, Cherki.
Il est blessé, mais il n'empêche qu'il n'a pas beaucoup joué. Il aurait pu jouer plus.
Il l'a sous-utilisé, notamment en Coupe de l'UEFA.
Donc il n'a pas toutes les excuses du monde, mais. C'est un début d'explication par rapport au problème de lien offensif que tu soulevais.
Alors, justement, on va terminer avec les Lyonnais contre C.
Avant de continuer avec
l'Olympique de Marseille.
Juste vous dire que le fait est qu'ils sont dixièmes,
oui.
Qu'ils sont aux trois quarts du championnat, qu'ils ne vont pas encore accrocher les positions européennes et que s'ils ne les accrochent pas à la fin de la saison, l'avenir de l'entraîneur lyonnais est en jeu. Parce que ça serait vraiment un manquement important pour cette équipe lyonnaise qu'on attendait cette année quand même, qu'on les attendait cette année.
Pour moi, au vu de l'effectif, c'est un licenciement pour faute grave.
Oui.
Concernant Peter Bosch.
C'est impossible de licencier sur faute grave en foot.
Alors,
ça ne marche jamais.
Je fais un parallèle avec la vie, je ne sais pas si tu travailles un petit peu, mais avec la vie civile, où justement, quand on fait une faute grave, on les licencie.
Tu sais qu'à Bordeaux, ils arrivent même pas.
On devait le mettre en place.
Tu sais que Petkovic, c'est ce qu'il essaye de jouer, la faute grave. À Bordeaux, c'est Lopez qui essaye de jouer la faute grave.
Il y a
Petkovic,
toujours des vices de procédure.
Allez, Mourad,
hein, il n'y a qu'un pas entre la société civile et le football. Hein.
On prend la direction de Marseille. Et oui, son club, les Phocéens, justement, les critiques qui pleuvent. 3-3 après le nul face aux Troyens. Là aussi, ça va mal pour Sampaoli.
Oui, c'est compliqué pour Sampaoli, c'est compliqué pour. Marseille, ils sont dans le creux de la vague. C'est vrai que sur les 5 derniers matchs, 2 victoires, 2 défaites, match nul, c'est pas terrible pour cette équipe de Marseille. Pour certains, on peut trouver l'excuse que effectivement il y a eu ces matchs des Conference League où effectivement ils ont réussi à se qualifier. Il y a l'effort, il y a cette pression qui est redescendue. Mais le fait est qu'aujourd'hui, Marseille déçoit un tout petit peu quand même ces dernières semaines. Ils sont pas bien. Moi, je les trouve pas. Mais même dans le jeu, parfois, tu sais, tu gagnes pas des matchs, mais tu vois, il y a du jeu. Les joueurs se donnent à fond. Et là, on n'arrive pas à sentir la même chose avec Marseille depuis plusieurs semaines.
Ouais.
J'espère qu'ils vont se reprendre parce que derrière, quand même, ça colle de près puisque Nice est à un petit point de Marseille. et c'est quand même cette place directe en Champions League qui est en jeu, parce que quand on passe par les qualifications, par la, c'est beaucoup plus compliqué.
Moi, je crois que j'ai la raison. Alors, j'ai l'explication qui va tout expliquer pourquoi Marseille est pas bon en ce moment. C'est juste pour faire descendre Bordeaux, parce que les ils ont battu Bordeaux et derrière ils ont donné des points à Troyes et à Clermont juste pour nous emmerder. Non mais blague à part, c'est vrai que ça n'arrange pas du tout Bordeaux cette histoire. C'est le résultat de Marseille.
Alors, c'est faire jouer Lucien Riquet pour le revendre au prix fort.
Ouais.
Tout simplement.
Voilà, enfin, c'est pas un joueur comme ça qui va reprendre vif.
Justement, je pense que tu peux vendre un joueur juste en justifiant son temps de jeu. Non mais blague à part, je pense que l'Olympique de Marseille, déjà, c'est, enfin, avant d'évoquer l'équipe en elle-même, je pense que c'est les limites de Sampaoli qu'on est en train de voir.
C'est ça. Est-ce que quelqu'un a compris ce que voulait faire Sampaoli en termes tactiques? Moi, je comprends plus rien.
Sampaoli, on a l'impression qu'il est amnésique, que à chaque journée, il oublie les erreurs qu'il a fait la journée précédente. C'est juste incroyable. Il arrive co-leader du championnat, il arrive à 3, qui est dernier du classement, avec un double bus et en jouant le 1-0 à la mi-temps. Et ensuite, sans initiative offensive, et il se dit on n'a jamais été remonté, on ne s'est jamais fait égaliser, et j'espère sortir avec les 3 points. Donc voilà, en résumé, en 3 mots, le match de l'Olympique de Marseille, c'était quoi? Penalty?
Essentiellement,
et climatisation. Et donc, à chaque fois ça à l'extérieur avec Sampaoli. Donc on a l'impression qu'il n'apprend pas de ses erreurs. Après, il retombe toujours dans ses travers avec ses changements tardifs qui n'ont aucun sens. L'entrée de Luis Enrique, alors que t'as Corent de la Fuente qui fait une bonne prestation à Karabag et qui ne le réincorpore pas. On a toujours ces changements à la 86e qui n'ont ni queue ni tête. Tu veux préserver un score à la 86e minute face à l'Estac à l'extérieur? Je sais pas. Donc là, encore une fois, chapeau aussi à Laurent Batless. S'il cherche un coach, l'Olympique de Marseille, peut-être regarder du côté côté de Troyes. C'est un ancien Marseillais en plus.
Ouais.
Donc voilà. Donc Sampaoli, j'ai des gros doutes sur sa capacité. Moi, je sens la sortie
bien la suite de l'Olympique de Marseille. Alors,
pour l'Olympique de Marseille.
Ah bah, il fait comme son coach, comme son idole, Bielsa, qui est sorti aujourd'hui. Ah,
vous restez avec nous. On reviendra rapidement avec notre invité de ce soir. Je le rappelle, qui n'est autre que Paul Karsenak, et oui, de chez nos confrères du Figaro, avec l'ouvrage, la bande dessinée plutôt, L'or d'El Wafi. Magnifique bande dessinée. À de suite, n'oubliez pas le 01 53 48 3000 pour réagir en direct avec nous.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM. Et oui, il est quelle heure? Il est 20h20. Ça fait sourire Mourad. On a eu aussi Louis-Marie, sans oublier Juan José Dorado. Et nous accueillons pour la première fois, allez, notre invité de ce soir.
Time Sport, The Special One.
Eh oui, c'est notre Special One, justement. Notre Mourinho à nous, c'est Paul Karsenak qui nous fait l'honneur de nous assister ce soir. Sur l'antenne de Beurre FM, justement, co-auteur avec Pierre Roland, Saint-Dizier et aussi, sans oublier, Christophe Girard, de cette magnifique bande dessinée, L'or d'El Wafi, justement, aux éditions Michel Lafon. L'incroyable histoire de l'un des plus grands athlètes français du XXe siècle. C'est comme ça que l'on peut apercevoir sur les différents sites pour s'en procurer, et même sur les différents points de vente habituels. Je le rappelle, depuis ce 24 février, Jeux Olympiques d'Amsterdam en 1928. Et oui, El Wafi, on l'aligne au départ du marathon. Et justement, cette fameuse surprise générale, c'est lui qui remportera cette fameuse médaille d'or pour la France.
Ouais. Oui,
On l'a oublié. C'est ça, Paul.
On l'a oublié, il n'était pas connu quand il gagne en 1928. C'est un ouvrier, il travaille chez Renault. Il travaille à Boulogne-Billancourt. Avant ça, il était dans l'armée. Il a fait donc la Première Guerre mondiale. Il est venu en France métropolitaine, puisque l'Algérie, c'est un département.
Ouais.
Il est venu donc combattre sur le front de Picardie. Donc ensuite, il travaille chez Renault, comme je l'ai dit. Et puis, on le découvre bon en athlétisme à l'armée. Son lieutenant va l'entraîner. Et puis, voilà, il finit septième au JO de 1924. Et la deuxième fois, ça sera la bonne. Alors là, jusque-là, l'histoire va bien. Et nous, ce qu'on raconte, c'est qu'il n'est pas normal. Ce qu'on a trouvé pas normal, et c'est pour ça qu'on a fait ce travail, cette BD, ce roman graphique, c'est qu'il est tombé un petit peu dans l'anonymat.
C'est ça.
Voilà. Ouais. Donc, on a essayé modestement de contribuer à réparer cette injustice.
Ça, c'est incroyable, justement. Comment ces athlètes-là tombent dans l'anonymat? Puis-je permettre... Je sais pas, de me dire que des athlètes, peut-être que dans 200 ans, dans deux siècles, bon, je sais pas, on oubliera peut-être Diego Maradona ou encore Zinedine Zidane. quand même, c'est une médaille d'or tout de même d'un marathon. Oui, mais aux Jeux Olympiques, ce n'est
possible.
Pas rien.
Alors, il n'y avait pas la télé.
C'est assez fou. Oui, il n'y avait pas la télé
à l'époque, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas Beurre FM.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Mais c'est vrai que bon, c'est une injustice parce que surtout de son vivant, on l'a oublié. On l'a oublié. Et pourquoi ? Parce que il est parti aux États-Unis et on l'a rayé de la carte du professionnalisme parce qu'il a travaillé pour un cirque, il a gagné de l'argent. Et vous saviez qu'à l'époque, quand on gagnait de l'argent avec le sport, on ne pouvait plus faire les JO suivants.
Ouais.
Et donc voilà, donc on l'a un peu oublié, il s'est fait arnaquer, il est tombé dans la misère et puis voilà, il a fini sa vie un peu comme ça. Et c'est finalement, c'est Mimoun, lui, on le connaît mieux.
Ouais, c'est vrai.
C'est Mimoun qui le retrouve un jour quand il a gagné sa médaille d'or à lui et qui le retrouve et qu'il invite à l'Élysée pour sa cérémonie à lui de médaille. Et donc c'est comme ça que El Ouafi sort un peu de l'anonymat et nous on commence la BD comme ça et ensuite on revient raconter sa vie.
Assez fictif quand même. On retrouve dans cette BD.
C'est fictif, parce qu'on sait pas tout de sa vie. Il n'y a pas eu d'écrit. Finalement, il n'y a pas eu beaucoup de reportages. Donc, on sait pas tout. On a, si vous voulez, on a écrit un peu entre les blancs de l'histoire. Donc, il y a, je dirais, 60% de vrai. Et puis, pour que ça fasse un livre qui est intéressant à lire, on a quand même, mis un peu de romanesque là-dedans.
Bien sûr. Et vous le faites si bien. Louis-Marie, Juan José, Moura, des réactions.
C'est vrai que c'est un athlète qui est exceptionnel parce que finalement, on oublie qu'on en parlait justement avant l'émission. C'est un des 12 médaillés d'or olympiques français en athlétisme. Il y en a très peu. Mmh. On a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais il y a des sports où on en a des palanqués, hein, en escrime, en vélo, ce que vous voulez, on en a beaucoup. En athlétisme, on est quand même un peu moins présent, surtout sur un sport aussi important. Alors, on se posait la question de pourquoi il a été oublié. Son amateurisme, sa rupture avec l'amateurisme de son vivant lui a fait beaucoup de mal, on peut le penser, car c'était encore du vivant du baron de Pierre de Coubertin qui faisait la guerre aux amateurs, il faut savoir qu'à l'époque il y a eu des athlètes autrement plus sanctionnés qu'il ne l'a été, c'est-à-dire qu'on l'a oublié parce qu'il n'avait aucune fonction représentative ou quoi que ce soit, mais il y a beaucoup d'athlètes qui ont pâti du fait de vouloir vivre de leur célébrité. Et j'avais lu une interview justement d'El Ouafi qui disait « Oui, je suis parti aux États-Unis, mais vous vous rendez compte à l'époque ? Aller aux États-Unis, aller à New York, pour qui aurait refusé ça ?
Les années 30, oui.
C'est ça, qui aurait refusé de découvrir le monde ?
Il a participé à un cirque à l'époque, donc c'est un peu la couverture de l'album, vous pouvez aller voir sur Internet, on le voit courir avec des chevaux, léopard aussi. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est ça, dans les cirques américains, c'était pas comme aujourd'hui, on n'a plus le droit aux animaux et tout, à l'époque. Ouais. Donc on le faisait courir autour d'une piste et on le faisait se mesurer à des animaux, c'était ça dont on parle. Donc il a gagné un peu d'argent, et puis quand il est revenu en France, qu'il a plus pu participer, il a acheté, parce qu'il avait un petit pactole, il a acheté un petit hôtel-restaurant, un petit hôtel, mais bon, là, voilà, il s'est fait arnaquer aussi, donc on le raconte dans la BD, je vais pas tout dévoiler non plus, mais voilà.
Et pourquoi, justement, 12 athlètes uniquement, qui ont gagné des médailles pour la France au JO, pourquoi la Fédération, justement, d'athlétisme ne l'a pas récupéré à un moment donné ? Qu'est-ce qu'il est devenu par la suite ? Comment on l'a récupéré ?
Eh ben on l'a récupéré, comme je disais, avec Alain Mimoun, en fait, qui a fait le travail. Puis il y a des journalistes de l'équipe aussi qui sont allés le trouver. Ils l'ont vraiment recherché. C'est vraiment une enquête, ça aussi. Ils l'ont recherché, ils l'ont trouvé. Finalement, il vivait dans un petit pavillon de banlieue avec sa nièce, je crois, ou sa sœur. Voilà, et donc ils l'ont retrouvé, je crois, dans le 93, dans un petit pavillon de banlieue. Et oui, un des 11 athlètes, c'est un homme qui est de la même trempe que Marie-Josée Pérec, que Renaud Lavillény, que pour avoir un petit ordre de comparaison aujourd'hui, c'est des hommes, le marathon à l'époque, 42 kilomètres, aujourd'hui, bon, tout le monde fait un peu, mais, plus ou moins, mais enfin, à l'époque, c'était quand même quelque chose, c'était un peu comme...
Et vous êtes déjà en 2h35, hein?
Ouais,
ça parlera aux spécialistes quand même. À l'époque, avec le matériel,
on le fait en 2h0.
Oui, non, mais on le fait en 2h04, mais pas avec le même matériel. Donc, finalement, l'explosion du temps n'est pas si impressionnante que ça.
Non,
c'est relativement, et on parle pas avec le même entraînement, pas avec la même.
En 1928, quand même.
On est en 1928 avec quelqu'un effectivement qui est ouvrier chez Renault.
Oui, parce qu'il travaillait la journée, dans les usines, et après l'après-midi, il allait le soir, il allait s'entraîner.
Dans le club, justement, Renault avait un club d'athlétisme dans lequel il était.
Alors j'ai juste une curiosité. Il a été oublié en France. Est-ce qu'on l'a oublié du côté de l'Algérie aussi ? à l'époque, l'Algérie étant un département français. Mais est-ce que l'Algérie, par la suite, n'a pas voulu récupérer la figure d'un athlète?
C'est pas trop. Moi, je crois qu'il avait de la famille qui se battait pour du côté algérien, qui se battait pour qu'elle soit sa figure soit reconnue, mais. Non, je crois, à ma connaissance, pas trop. Ben, vous savez, il a gagné la médaille pour la France, hein, donc c'était avant, bien avant. D'ailleurs, c'était pas très proche, hein, c'était bien avant l'indépendance. Donc, du coup, voilà, c'était un athlète qui a gagné à 100% pour la France, et donc la question s'est pas trop posée, à mon avis.
Moi, j'avais une question, puisqu'on a on a évoqué son
Alors
raison,
Mourad,
mais il est mort dans des conditions tragiques. Et il y a des avis qui divergent concernant
le Wafi. On ne sait pas trop comment il est mort.
Ouais,
enfin, quelles sont les raisons de, de sa mort par balle.
Exactement. Donc, vous voulez savoir, est-ce que... Voilà, vous avez des éclaircissements.
Vous avez spoilé.
Ouais. Pour les auditrices et les auditeurs, c'est pas grave.
Il y a d'autres surprises dans l'idée.
Je pense que son vivant est beaucoup plus intéressant que sa mort.
Alors, Paul.
Il n'y a pas trop eu d'enquête. On ne sait pas si c'est un règlement de compte familial, c'est-à-dire lié à des dettes, à des impayés, etc. Ou si c'est une raison plus politique qui serait liée à des. Entre deux factions, le FLN et. Le MNA. Ça serait des règlements parce que la guerre d'Algérie, donc il est mort en
1961.
Il est mort juste avant l'indépendance.
Mais c'est ça, il est mort en 1961, donc juste avant les accords d'Algérie.
Juste avant, et donc c'était une époque où ça se battait beaucoup aussi pour la suprématie des mouvements d'indépendance. Et donc voilà, ça serait aussi sur le territoire français, donc il y avait des règlements de compte et c'est probablement lié à ça.
Oui. Messieurs, André Rousset,
moi je pense que c'est d'ailleurs à Bobigny, au carré musulman de Bobigny.
Cimetière.
Mais est-ce qu'aujourd'hui il a retrouvé la place qui lui revient?
Eh ben oui et non. Bon, aujourd'hui, il a des rues, des gymnases.
Une rue juste à côté du Stade de France
aussi. Juste à côté du Stade de France. Sa tombe, c'est une vieille tombe. Je crois qu'il y a eu une pétition il n'y a pas longtemps pour l'entretenir un peu mieux parce qu'il n'a plus de famille. Il n'avait pas d'enfants, hein, donc bon, il n'a pas eu trop de personnes pour s'occuper de sa tombe.
Ouais.
Est-ce que je peux communiquer à la radio sa tombe, où est-ce qu'elle est située?
Oui.
Cimetière musulman de Bobigny, carré 5 bis, ligne 2, tombe 48.
Ah bah c'est précis.
C'est très précis. Vraiment pour les auditeurs.
Disons que moi je trouve, ça c'est mon avis personnel, pour quelqu'un qui a gagné il y a 100 ans, il est assez connu maintenant, parce qu'il y a eu des livres, il y a eu un peu... c'est la deuxième BD qui
Merci
sort sur lui.
Aussi,
Nous on a voulu continuer là-dessus, mais... Le véritable problème, c'est de son vivant. C'est-à-dire que c'est pas normal. Nous, on a trouvé que c'est pas normal qu'une personne qui gagne une médaille d'or olympique et en plus en marathon finisse comme un quasi SDF, finisse dans la pauvreté.
Oui, non, mais là, c'est le problème, c'est que
lui-même, il le dit. Excuse-moi, Louis-Marie, je te corrige. De son vivant, c'est très important. Il dit que le Chilien qui a fini second derrière lui,
on lui a donné une villa.
On s'était vu attribuer une villa, alors que lui.
Non, mais après, il faut voir une chose.
Alors c'est quoi?
Je répète sur ce que je disais, mais. Il faut voir l'importance que ça avait à l'époque, l'amateurisme dans l'olympisme, surtout dans le pays de Pierre de Coubertin. La réalité, c'est que c'était considéré comme de la tricherie, comme du dopage. Il a sans doute, c'est difficile à dire 100 ans après, mais il a sans doute été blacklisté, on dirait aujourd'hui, oublié, parce que c'était un tricheur pour les gens. Parce que c'était quelqu'un qui était passé du côté obscur.
Ouais.
Et concrètement, ça a dû beaucoup impacter. C'est
Je dis qu'il a dû arrondir les fins de mois parce que c'est en amont qu'il n'a pas été rémunéré.
Ah non, mais ça, on est tout à fait d'accord. Je ne dis pas que c'est la tricherie. J'explique juste pourquoi il n'a pas été soutenu à l'époque. Parce que ça ne se faisait pas en France.
À l'époque, c'était vu comme ça.
C'était scandaleux, bien évidemment. Et ça a changé, heureusement, bien plus tard.
Donc d'accord, mais de son vivant, je suis d'accord avec toi. Mais a posteriori,
Jean-Bouin
n'a rien gagné, il y a des gymnases partout.
Non, mais bien sûr.
J'ai jamais fait de five dans un gymnase à Wafi.
On est tout à fait d'accord.
Moi, je suis d'accord.
Et je trouve que justement, avec les JO qui sont chez nous bientôt, ça serait peut-être l'occasion de le réhabiliter. C'est quelqu'un qui pourrait, je ne sais pas, avoir une statue à l'INSEP, ce genre de choses. Il a sa place dans des endroits comme ça.
Au Panthéon du sport.
On peut dire que c'était une immigration de qualité aussi. Pour faire un petit parallèle avec l'actualité.
C'est vrai que c'est injuste que cet homme-là, et là je rejoins complètement Mourad, de son vivant, on peut l'expliquer, là, maintenant, sachant qu'il a été réhabilité par le président Gauthier à la fin de sa vie, parce que, bon, je vais peut-être pas tout spoiler, mais effectivement, il y a eu des liens avec le président Gauthier grâce à Alain Mimoun, qui lui a trouvé un job et tout, donc...
Ouais.
Il y a eu un petit début de
Mimoun a fait vraiment le boulot pour le
soir. Alain a fait le
boulot. Alain Mimoun,
il aurait pu le faire plus tôt, moi, je pense aussi. Hein.
Oh, peut-être
il aurait pu le faire plus tôt.
Il n'a pas pu.
Contre Alain Mimoun, mais
ouais.
il est quasiment en fin de vie. Il a gagné le marathon en 1928 à Amsterdam. C'est en quelle année qu'Alain Mimoun gagne
56
à Melbourne.
Il y a
des décennies d'écart.
Ouais. Non, mais
on ne sait pas après la vie comment. Je sais pas.
On n'est pas sous les mêmes niveaux d'information qu'aujourd'hui.
Sûr, ouais, c'est sûr.
Est-ce que Mimoun était vraiment au courant de qui était El Ouafi? Est-ce qu'il avait accès au palmarès comme aujourd'hui de tout le monde de ce qui s'était passé?
Alors, c'était plus dur, j'imagine. Voilà, il n'y avait pas Wikipédia.
Et voilà,
c'est ça.
Pour vous dire, le lendemain, moi, parce que quand on a fait la BD, on a fait des recherches dans les journaux d'époque et tout. Et le lendemain de sa victoire, vous savez, c'était l'après-midi et pour que ça soit imprimé, les journaux, c'est pas Internet. Comme aujourd'hui, il fallait vraiment, c'est des dépêches très courtes. Et ils n'avaient pas de place dans le journal du lendemain, parce qu'on avait gardé une ligne, on ne pensait pas que le français El Ouafi, que personne ne connaissait, gagné...
Il faisait partie des outsiders, il avait été septième le jeu précédent,
on l'attendait pas.
En ce temps-là,
voilà. Et donc, on n'avait pas gardé de place dans le journal, et puis finalement, il n'y a rien eu, je ne sais plus quel journal qui a dit El Ouafi a gagné, c'était télégraphique, El Ouafi a gagné, on y reviendra demain si on a de la place, puis après le lendemain ils sont passés à autre chose et c'est comme ça que ça s'est passé. Alors nous voilà, aujourd'hui on arrive presque 100 ans après, on veut lui rendre un peu de lumière, c'est pour ça que je suis là ce soir. Bon,
et
j'espère
voilà.
que les gens qui liront le livre, ça leur rendra un peu hommage.
Magnifique livre, bien sûr. Pourquoi L'or d'El Ouafi. Justement, j'aimerais réagir sur cette première page où on voit un Andalouse peut-être, oui, ça va faire rappeler, c'est ça, Rondrosset, avec un guépard.
C'est une couverture qui est non pas du tout.
Non.
Ça se lit dans la BD. C'est une belle couverture de Christophe Girard, qui est le dessinateur. Non, ça représente son passage au cirque. C'est-à-dire le passage au cirque, comme je vous expliquais tout à l'heure,
d'un
concours contre des animaux. Et ça peut être vu aujourd'hui, voilà, comme un peu dégradant. Hein. Bon, faut le voir avec le regard de l'époque. C'était du spectacle. C'était un showman, son passage aux États-Unis.
Rappeler. En ce temps-là, il y avait Barnum aussi.
Voilà.
C'était l'expansion de Barnum, Monsieur Barnum.
Le cirque Barnum, c'est très connu.
Très connu.
On en a fait même. Si c'est celui-là qui.
Le cirque Amar aussi.
Ouais.
Hein,
ouais. Non, mais vraiment, c'est lui qui a inventé ces cirques-là.
Avec les femmes à barbe et les géants.
Ouais.
Voilà.
Je crois que c'était
son représentant.
Voilà, c'est ça.
Pourquoi avoir choisi justement ce format de BD?
Alors, entre ces.
Le roman, la bio.
Le roman graphique comme ça, ça laissait de la place. Il y a quand même 126 planches, je crois. On avait besoin de place pour raconter toute sa vie. On voulait pas se cantonner juste au sport. C'est une BD où on trouve du sport, mais c'est une BD où on parle beaucoup d'histoire. D'histoire, finalement, on traverse tout le siècle, on traverse tout le 20e siècle. On avait besoin de place. Et c'est une BD, je dois dire, qu'on a fait à trois. Hein, donc, chacun a amené un petit peu sa touche. Donc on a trouvé que c'était un support intéressant. Il existe des romans sur El Ouafi. Moi, je pense que ça pourrait mériter un film.
Pourquoi pas.
Non, mais voilà.
Chariot on Fire. On l'avait vu en 1928. Je crois que c'était en plus.
Non, les chariots de feu,
c'était sur le commerce.
C'est sur les jeux de 1908. Oh.
1908, bien avant. Ouais, c'est bien avant. 1908. Ça, c'est à voir. Ça, c'est à voir parce que ça me rappelait. Alors on verra. Je vais googliser cela carrément. Mais bon, c'est vrai que c'était.
Ça pourrait être une belle interprétation au cinéma.
Ça serait pas mal.
Ouais, je sais pas qui vous y verriez, mais.
J'ai un ami.
Il faut un
ami que je verrai bien.
Malik Amraoui.
Acteur
Malik Amraoui.
Il a cheveux en plus.
Là, c'est sympa aussi.
Bien justement interpréter le rôle d'El Ouafi.
Justement.
Ceux qui connaissent.
C'était les Jeux Olympiques. J'avais bien raison. De 1924 au lieu de 1928. Voilà. Oui, pour cette équipe britannique.
Très
bien,
ça. Et pourquoi
pas? Et pourquoi pas? Ouais, le cinéma, on aime bien ici sur Beurre FM, n'est-ce pas, Juan José? Hein, avec Pedro Almodovar aussi.
tout dans le style.
Paul, justement, c'est vrai que ça reste.
Le cinéma de Florentino Pérez la Super League, c'était pas mal aussi.
Mais oui. En tout cas, ça reste assez impressionnant, cette histoire. Ne pas oublier, c'est sportif. Que ça soit français ou même venu d'ailleurs aussi. ça soit même des sportifs. On en avait parlé avec un sportif, je crois que c'est avec Yacine, notre consultant, au Burkina Faso, si ma mémoire est bonne.
J'ai quand même une question. Est-ce qu'il y a d'autres El Wafi qui restent à découvrir? Non, pour nous aujourd'hui. Dans vos recherches, y a-t-il d'autres personnages où vous vous êtes dit peut-être que celui-là, il mériterait aussi.
Avant que je le fasse, les ligaments croisés.
Voilà. Non, dans beaucoup de sports, je pense que le sport, de toute façon, c'est plein d'histoires humaines. Donc chaque sportif, on peut raconter quelque chose. Par exemple, moi, j'ai fait une recherche.
Alors.
Il y avait une autre histoire qui m'intéressait au niveau des jeux, comme ça, au début des jeux. Vous savez qu'il y a une femme qui a gagné. J'ai plus son nom. Pareil, il faut rechercher. Là, c'est la première dépourvue. Qui avait gagné le golf. C'était la deuxième médaillée femme de l'histoire des Jeux Olympiques. La première américaine médaillée de l'histoire des Jeux Olympiques en golf, et bien vous savez que toute sa vie et jusqu'à sa mort, elle savait pas qu'elle avait gagné la médaille d'or.
Incroyable.
Parce que quand elle avait participé au concours au JO de Paris 1900, si je me trompe pas, c'était bien en 1900, peut-être, et ben c'était présenté comme un concours de golf classique. C'est qu'après que le CIO a déclaré que c'était l'épreuve olympique, c'était pour l'exposition universelle. Et ils l'ont couplé avec les JO qui n'étaient pas du tout connus, les JO à l'époque. Et ben du coup, cette femme, elle a jamais su de son vivant qu'elle avait été la première médaillée d'or femme des États-Unis. Et donc, c'est quand même des histoires de vie comme ça, avec le sport, incroyable.
Peut-être Margaret Abbott.
Peut-être.
Non, mais vraiment, j'ai essayé de vite me renseigner.
Je
peut-être,
sais plus.
Ouais. Ouais, rentre, ça te fait sourire, en tout cas.
Non, mais il y a des belles histoires qu'effectivement, à récupérer.
Il y a une histoire que j'aime beaucoup dans le sport dans le football, c'est l'histoire d'Edouard Strelstov. Alors, je ne sais pas si certains le connaissent autour de la table.
Allez, dis-nous tout.
Et qui était un footballeur soviétique.
Ouais.
Et que Pelé considérait comme le meilleur joueur du monde devant lui.
Ah ouais, carrément.
Et qui a été détruit par le pouvoir soviétique.
Ouais.
Parce que c'était plus ou moins un opposant. Et qui n'a pas existé et qui n'a plus laissé de traces.
Ah bah ça, c'est intéressant.
Je vous encourage à regarder.
On va faire une BD.
Ces histoires comme Matthias Sindelar. Le joueur de la fameuse grande équipe autrichienne avant la guerre et qui a été du coup lui
là,
pour
tu
le
surprends,
coup
parce détruit, que Pelé le roi du ballon Pelé le roi du ballon avait dit si moi j'en étais le roi l'Arbi Ben Barek en était le dieu du football
et il a dit beaucoup de choses Pelé.
Ouais, c'est vrai,
il avait le sens de la flatterie
c'est vrai.
Ouais, exactement, il y a plein de successeurs il a doublé beaucoup de joueurs.
Mais là, c'était ses contemporains.
C'est les qualités d'un roi, justement.
Ah, bah oui.
C'est d'adouber ses chevaliers.
Voilà, Strelsov ou Ben Marek étaient ses contemporains. Ouais, les joueurs qui étaient quasi ses rivaux.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est une histoire intéressante. Et le sport en regorge de joueurs comme ça, un peu atypiques, de gens qui sortent du cadre. Et il y en a beaucoup.
Tu fais bien d'en parler.
Surtout, quand la politique et l'histoire croisent le sport, c'est là qu'on a des histoires intéressantes qui se créent, quoi. Parce que
Rachid Mekloufi aussi, c'est une très belle histoire.
Ah, oui.
L'ancien maître à jouer de la Saint-Etienne aussi.
Oui. Il y a eu des BD.
Il y en a eu.
Même des documentaires. Pourquoi pas? Quand
il n'y a pas eu de représentation cinématographique.
Ouais. Il faut des producteurs qui sont là, qui
là aussi, des projets. Malik Amraoui, il est prêt.
Malik Amraoui aussi.
T'es son agent
Je sais pas.
Ouais, je plaisante. Non, mais je le
Paul Kersenak, un grand merci d'avoir été avec nous. Je tiens à remercier aussi Pierre Roland, Saint-Dizier ou encore Christophe Girard qui sont les co-auteurs de cette magnifique bande dessinée, on le rappelle, Lord El Wafi. Et oui, un grand athlète qu'il faut pas oublier, Bouguera El Wafi. Justement, aux éditions Michel Lafon, sorti depuis ce 24 février. La suite du programme de Timesport, rapidement après la dernière pause. À de suite.
Timesport revient dans un instant. 20h, 21h, Timesport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Retour sur l'antenne de BFM pour cette dernière partie, toujours en compagnie de notre invité de ce soir. Et oui, l'auteur Paul Kersenak, est journaliste aussi chez nos confrères du Figaro, est avec nous pour Lord El Wafi aux éditions Michel Lafon. En compagnie de Juan Trossé, de Mourad et sans oublier Louis-Marie. Alors on va s'attarder encore une fois sur le gamin de Bondy.
Time Sport.
La troisième mi-temps.
La troisième mi-temps. La troisième
voilà. Mi-temps. Vous n'êtes pas dans les années 80. Voilà, c'est pas du remix 80. DJ Kim sera là dès demain matin pour la matinale. Mourad est chaud, Juan Trossier aussi. Mais on va rester assez cool justement sur l'antenne de Beurre FM. Le gamin de Bondy, Kylian Mbappé, champion du monde en titre. Et oui, la phase finale arrive à grands pas du côté du Qatar.
Tu parles pas d'âge, hein, Bilal.
Non, non, non. Bien sûr, Kylian Mbappé est bien là. Et il égale Zlatan Ibrahimovic, la star milanaise qui aimerait terminer sa carrière chez les Lombards. Oui, Louis-Marie, je te regarde.
Bah écoute, c'était une évidence qu'il allait le faire. Ça, allait, ça n'était qu'une question de temps. La vraie question, c'est quid de Cavani. Alors c'est rigolo, encore une fois, on a beaucoup parlé. Il y a une petite phrase qui a fait parler après. Oui, est-ce que je battrai Cavani? Laissant sous-entendre que potentiellement, il pourrait être là l'an prochain. Bon, moi, ça me fait doucement rigoler. Ça relance encore une fois le débat. Ça me fait... On voit partout fleurir des articles. Alors, est-ce qu'il fait, il va rester? Est-ce que sa petite phrase dure quelque chose?
Est-ce que les médias s'accrochent à la moindre phrase qui sort de la bouche de Kylian Mbappé? Quand tu dis que je suis dans un cercle très fermé, tout le monde, il y a mille interprétations autour de cette phrase. Est-ce que ça veut dire je vais m'arrêter là, je suis déjà dans un cercle fermé? Ou est-ce que ça veut dire je vais continuer et je vais éventuellement dépasser Cavani pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du club? Donc voilà, on essaie de lire entre lignes. Après, pour moi, je retiens pas le record de... Le fait qu'il égale Zlatan Ibrahimovic, moi je regarde en fait le travail accompli par Zlatan Ibrahimovic qui là m'a un peu subjugué. On n'en parle pas beaucoup de son passage au Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic. Je pense que on l'a pas un peu oublié, mais on a tendance un peu à sous-estimer ses performances. Il marque autant de buts que Kylian Mbappé
en moins de matchs.
Moins de matchs, je crois 25 matchs de moins et autant quasiment de passes décisives. Et sachant que on a l'impression qu'il choisissait ses matchs, qu'il était un peu plus nonchalant. Donc voilà, moi je salue justement la performance de Zlatan Ibrahimovic et son passage au Paris Saint-Germain.
C'est vrai que c'est l'occasion de remettre un peu la lumière sur lui au PSG. Après, bon,
il est beaucoup plus âgé aussi.
Oui, hein, Paul. Aussi.
Exactement.
Ouais, confirmé.
Il avait déjà roulé sa bosse. Kylian Mbappé, il est dans la force de l'âge.
Alors Kylian Mbappé,
c'est un record incroyable.
Alors pour les stats, Kylian Mbappé paye un peu sa première année où il était plus jeune, alors que Zlatan était un joueur fait. Donc pour ça que Zlatan est un peu devant en stats. On peut penser que si Mbappé avait 4 saisons en pleine forme, ça aurait été un peu différent. Mais bon, ça c'est l'épaisseur du trait, c'est pas très très important.
Zlatan était beaucoup absent aussi.
On revient à notre invité concernant Kylian Mbappé ou même Zlatan Ibrahimovic et tous ces ces records plutôt. Au lieu de palmarès.
Oui, bah moi je suis très admiratif de Kylian Mbappé qui est décisif vraiment quand il faut, hein, même qui peut sortir le PSG de mauvaise passe, surtout cette année. On le voit, c'est important d'avoir un joueur comme ça dans un effectif qui peut vraiment faire la différence n'importe quand.
Juan Trossier, ouais. Mais Marie.
Bah moi je voulais poser une question à Juan Trossier.
Allez, mais avant.
Alors
avant,
vas-y.
Je suis désolé de casser l'ambiance.
Vas-y, rentre.
Alors je regardais de près, je dis, bon, Mbappé, il a réussi à égaler Ibra. D'accord. Sauf qu'il n'est même pas le meilleur buteur du championnat français. Il y a un certain Ben Yedder qui est déroulé. comme ça. Alors je me suis dit, non, mais quand même, il a mis 24 buts. Oui, mais Benzema, il en a mis 31 pour l'instant.
Ouais.
Donc, sur l'ensemble de la
saison. Alors, il n'est pas d'accord.
Alors je me suis dit, bon, on va aller un peu plus loin.
Alors
on va voir le meilleur buteur du championnat allemand, Lewandowski, à 28. Il double quand même Mbappé. On va aller voir la première ligue. C'est encore raté, Mbappé derrière.
Ouais.
Puisque le meilleur partage buteur, son gâteau. C'est, ça, là, c'est 19 buts.
Il partage son gâteau avec le meilleur buteur de l'histoire.
Il est derrière Benzema, excuse-moi. Il est derrière football, Benzema. Je me suis dit, on va aller voir chez les Italiens. Et ben voilà, il est aussi derrière le meilleur buteur italien.
Non, mais
allez, on va chercher plus simple, la Belgique. Derrière le meilleur buteur de la Belgique.
Incroyable. On a fait toute l'Europe.
Non. Donc les Pays-Bas, il est derrière. Vous savez, il n'est que le 8e ou 9e meilleur buteur des principaux championnats.
Non, mais il partage ses statistiques.
C'est bien qu'il marque des buts.
Il partage quand même.
Il a mis 42 buts.
Alors
42 buts la saison dernière. Mais un grand joueur, et il l'est, il l'est. Mais c'est des joueurs qui mettent entre 50 et 55. C'est les Messi qui arrivent à faire 50 buts par an. Peut-être pas au PSG, alors c'est peut-être le problème du PSG. Le meilleur buteur du Real Madrid, c'est 331 buts. C'est Cristiano Ronaldo. Le meilleur buteur du Barça, c'est un certain Messi. 671 buts. Donc, on peut regarder son nombril. Mais quand vous allez un peu plus loin, montez un peu plus haut, vous vous rendez compte qu'étant un superbe joueur qui va certainement battre beaucoup de records,
Non mais là tu compares le championnat de France.
Il y a une marche à franchir quand même.
Après tu compares le championnat de France, c'est sûr que concrètement tu peux pas avoir en championnat de France quelqu'un avec autant de buts parce qu'ils partent au bout d'un moment. Donc ça c'est normal, t'atteindras jamais les scores de Messi et Ronaldo.
Non mais on découvre pas Kylian Mbappé quand même. Oui.
Non mais moi ce que il atteindrait sans doute ces scores-là s'il faisait sa carrière au PSG, mais ce qu'il ne le fera pas. D'ailleurs je voulais juste interroger là, je parle
sous le contrôle
de Juan Rosé qui m'arrêtera si je dis une bêtise et qui complétera ce que j'ai à dire. Moi, je trouve que dans cette histoire de contrat de Kylian Mbappé, je trouve qu'on oublie souvent, quand on en parle, une donnée. Tout le monde dit, bah, il a le choix, s'il part pas au Real cette année, il ira l'an prochain ou l'année d'après. Moi, j'y crois pas une seconde à ça. Parce que pour moi, si il ne signe pas au Real cette année, c'est une humiliation pour le Real. Il leur claque la porte au nez. Et personne ne claque la porte au nez du Real. Personne ne dit non au Real Madrid. Là, il a la porte royale pour Mbappé. S'il ne signe pas cette année, le Real va signer Haaland. Ouais. Ils vont tout faire pour faire d'Haaland un très grand joueur. Et Mbappé, ça sera terminé. Moi, je ne crois pas une seule fois que le train Real Madrid repassera s'il lui dit non cette année.
Vas-y, Mourad, enchaîne.
Alors, je suis d'accord avec Mourad. D'autant plus qu'on oublie aussi quelque chose d'important. C'est que quand le Real fait les trois propositions au mercato d'hiver, ce sont des propositions qui sont faites au PSG avec l'accord d'Mbappé.
Oui.
Mbappé donne son accord pour qu'il y ait jusqu'à 200 millions sur la table pour le PSG. S'il n'y va pas cette année, et je suis d'accord avec toi, ça va nous rappeler le cas Griezmann quand il dit non la première fois à Barcelone et il n'a jamais réussi quand il est revenu. Donc s'il n'y va pas cette année, je suis d'accord, il n'ira pas.
C'est une sacrée institution le Real. Hein. Il ne propose pas deux fois. C'est au-dessus des joueurs le Real. C'est la grande force du Real. Hein.
Ils ont mis 200 millions sur la table quand même.
On est d'accord, je crois que c'est l'institution la plus respectée. Mais je pense qu'aujourd'hui, aucun club ne peut se passer du talent d'Mbappé. Donc je pense que tous les clubs sont prêts à attendre un an, deux ans, quitte à mettre en péril leur institution et attendre éventuellement l'arrivée d'Kylian Mbappé.
Tu mets en péril l'institution si tu ramènes Haaland.
Moi je pense que tu signeras Haaland dans la foulée.
Moi je pense que Haaland est en train de s'essouffler.
Mais Haaland est quand même.
Les Kylian Mbappé ne courent pas les rues.
Oui, mais
Haaland est en train de s'essouffler. On le voit d'un point de vue statistique. Ils se font éliminer par les Glasgow Rangers.
T'as vu ses stats
en Europa League.
En nombre de vues par minute, il est au-dessus de Mbappé cette année.
Mais il n'est pas capable de marquer à Ibrox Park. Donc c'est un peu compliqué.
Il n'a pas la même équipe.
Donc je pense que voilà, Mbappé, c'est aujourd'hui c'est the player.
Alors oui, Mourad.
Et que tous les clubs peuvent attendre éventuellement.
Et ben moi je
non pas s'asseoir sur leurs institutions, mais éventuellement la mettre en péril.
Oui, non, mais voilà. Là, sur cette histoire-là, elle est vraiment particulière parce qu'ils lui ont fait la danse du ventre pendant 3 ans et il est libre. Ça serait vraiment dire non au Real alors qu'il est complètement décideur.
Il y a tellement de données qui ont changé. Il y avait Zidane qui a été, qui a quitté le Real
c'est
Madrid.
C'est pas le sujet.
Il y a tellement de circonstances atténuantes.
Et
je pense que les fans et les dirigeants du Real Madrid peuvent aussi comprendre.
S'il n'a pas l'accord de Mbappé pour les mettre et pour dire oui, je pars déjà en janvier avec vous.
Mais
c'est pour ça qu'il devrait partir à la fin de juin.
Tu penses pas que la condition sine qua non pour Mbappé de signer au Real Madrid, c'était d'avoir Zinedine Zidane en qualité d'entraîneur?
Non, je crois pas.
Allez,
Paul, peut-être, si l'on pense.
Conclure, moi je pense que j'attends beaucoup Mbappé parce qu'il y a la Coupe du Monde
au Qatar.
Dans quoi, 8 mois, c'est 10 mois, l'hiver prochain. Et je pense que dans sa carrière, quel âge il aura dans un an? Il sera vraiment.
24 ans.
Ouais, 24 ans, je trouve que c'est l'âge vraiment où il peut y avoir un déclic dans sa carrière et je pense que ça va être vraiment intéressant de voir. Et effectivement, s'il réussit une grande Coupe du Monde, je pense qu'il peut vraiment passer dans une autre dimension totalement et après, beaucoup de choses s'offrent à lui. Ou alors, au contraire, s'il passe un peu à côté, voilà.
Il a 23 ans. Il a 23 ans.
Tu as fait raison. Mais c'est pour ça que Louis-Marie a aussi raison et je suis d'accord avec lui. Lui, s'il ne part pas là tout de suite, il part parce qu'il fait une grande Coupe du Monde, il ira dans un autre club qui va le signer 5 ans. C'est-à-dire jusqu'à 29 ans. Il ira pas au Real Madrid.
Ouais, je pense que ça sera Liverpool ou un autre. Mais ça, c'est peut-être pas plus mal.
Carrément. C'est une possibilité.
Moi, justement,
tu crois que tous ces cours d'espagnol et ces échanges en espagnol avec Achraf Hakimi pour aller signer à Liverpool
arrêtons de rigoler. Il sera en Real cet été, mais il n'y a aucun doute.
Pour le Marie, on verra bien.
On le sait.
Personne n'en doute à part ceux qui veulent vendre du papier.
On le sait, mais quand tu dis qu'il ne cracherait pas sur le retour de Cavani, il donne encore un peu de faux espoirs aux ultra-parisiens.
Mourad, la Coupe de la Ligue anglaise de football qui n'est autre que cette fameuse League Cup rapidement Chelsea. Face à Liverpool, 10 buts par 11, c'est ça. Ouais, c'est ça, au tir au but.
C'était assez chaud quand même. Incroyable.
Ouais.
On parlait de cinéma tout à l'heure.
La Carabao Cup.
C'était incroyable comme prestation, c'était un spectacle. Quand on sait qu'en France, la Coupe de la Ligue a disparu depuis 2020 et qu'on voit ce type de spectacle du côté de l'Angleterre avec la League Cup à Wembley, avec une profondeur de banc, avec un 11 incroyable, avec des actions, des buts refusés, une séance de pénalty incroyable.
Le match n'est pas gigantesque. Hein.
Non, moi j'ai bien
hésité. Jason nous en parlait en plus.
D'un point de vue tactique, je suis désolé.
Le
VAR
a marché pour la finale. Le VAR a marché.
Ah, mais bien sûr.
Non, mais c'est pas
d'un point de vue tactique, techniquement, c'était quand même du très haut niveau. Non, mais les gros matchs, généralement, ça laisse très peu de marge d'erreur. Par contre, c'est le seul point négatif.
Alors c'est quoi
le point négatif, c'est le coaching de Tuchel avec la corporation de Kepa. Oh, moi, j'ai pas vu de pire changement depuis Clinton NG avec le Cameroun en demi-finale.
Attends, t'as vu
2022.
T'as vu les
ou même à l'Europa League.
Moi, je n'ai jamais vu
avec
Manchester.
Moi, je n'ai jamais vu autant. Autant de tirs au but
pour t'envoyer pour tuer trois oiseaux, c'est incroyable quand même.
Tireur à part Kepa. Qui tire moyennement son tir au but. La maîtrise technique des joueurs hier, c'est ce que je disais justement.
Merci Juan Trossé, merci Moura de m'avoir accompagné pour ce premier jour de la semaine en live sur l'antenne de Beurre FM. On va fermer la page de cette émission et aussi de toutes ces magnifiques informations tombées dans la journée. L'or d'El Ouafi, je le rappelle, aux éditions Michel Affon, qui a été coécrit avec Paul Kersenak. Merci Paul d'avoir été avec
merci
nous.
Merci à vous.
Journaliste chez nos confrères du Figaro, merci Pierre Roland, Saint-Dizier et aussi Christophe Girard. Oui, Mourad, peut-être un truc à rajouter rapidement.
Sur la page de couverture, El Ouafi me fait penser à N'Golo Kanté un petit peu.
Ah ben voilà.
J'ai l'impression que ils ont les mêmes traits de caractère, des grands messieurs humbles. Qui n'est pas très reconnu.
Comment ferait N'Golo Kanté sur marathon, je ne sais pas.
Je pense qu'il serait très fort. J'ai vu une interview de lui. Je pense qu'il serait très fort. D'ailleurs, j'aurais bien aimé le retour de Sarri du côté de Chelsea pour voir un peu un meilleur N'Golo Kanté. Parce qu'avec Tuchel, on ne voit pas le meilleur visage d'N'Golo Kanté et Jorginho.
Un très bel invité ce soir avec nous. En la personne de Paul Kersenak, je le rappelle. Merci d'avoir été avec nous sur cette antenne. On l'antenne, la suite des programmes sur Beurre FM, sans oublier les replays sur beurrefm.net, le site internet, et sur l'application aussi Beurre FM, la radio de la diversité. Rendez-vous juste après 22h avec Vanessa et son réalisateur Giovanni. Et nous, on se retrouve dès demain à partir de 20h. Bye bye.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net.